Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à La Tribune. À l'émission aujourd'hui, 2022, entre espoir, crainte et incertitude, vous allez entendre au cours des 50 prochaines minutes 11 femmes et hommes d'ici vous partager ce qu'ils attendent, ce qu'ils appréhendent, ce qu'ils espèrent de 2022. Leurs témoignages vont se succéder à bon rythme. Hein? On parle de 11 personnes en 50 minutes. On va d'ailleurs, dès avant la pause météo, écouter un premier intervenant. René Lachapelle est connu pour avoir présidé la Société d'aide au développement de la collectivité Pierre de Sorel et le Conseil central de la CSN, connu pour le rôle qu'il a tenu d'organisateur communautaire au CLSC. Il communique aujourd'hui son savoir à des étudiants universitaires. D'ailleurs, il va le faire dans quelques minutes. René, bon midi.
Bon midi, Sylvain.
Alors, en 3-4 minutes, René, qu'est-ce que vous attendez de 2022?
Bon, ben la première chose, je veux souhaiter aux personnes qui sont à notre écoute une bonne année 2022, parce que malgré les contraintes de la pandémie, on a le goût que cette année soit une année intéressante. En même temps, on la commence en ayant en tête les impacts très durs que ça a eu sur la vie collective. Moi, je pense en particulier aux personnes qui sont confinées dans des logements en mauvais état ou qui sont confinées avec des personnes qui présentent des risques pour elles. Je pense aux femmes victimes de violences, aux enfants négligés. Alors, ces personnes-là, j'espère qu'on va trouver les moyens de les soutenir davantage. Mais je veux souligner aussi du même coup qu'il y a eu des personnes qui ont été justement sur le front de la solidarité. Je pense en particulier aux personnes proches aidantes là, qui vivent avec des personnes qui sont dans le besoin. Je pense aussi aux travailleuses et travailleurs de la santé et aux travailleuses et travailleurs sociaux qui sont en aide directe avec des gens qui ont vécu des problèmes. Et on sait à quel point c'est exigeant la dernière année. Mais je veux souligner d'une façon particulière les responsables des organismes communautaires. On les oublie souvent, mais ils sont très près des personnes qui sont dans le besoin. Et j'espère qu'on va leur accorder une reconnaissance pour que l'avenir qu'on bâtit soit un avenir de solidarité. Puis de ce point de vue-là, je pense qu'on a quelques défis à relever là, en termes d'un avenir qui soit plus sobre en énergie, qui soit axé sur la solidarité et le développement social. Mes souhaits. Deuxième préoccupation, on commence l'année avec des nouveaux élus ou des élus qui ont été réinstallés dans leurs fonctions. Alors, je souhaite qu'on soit capable d'améliorer la collaboration intermunicipale à la MRC. Je pense qu'une ville comme Sorel-Tracy ne peut pas vivre sans être profondément ancrée sur son territoire rural et que le territoire rural a besoin que l'agglomération devienne un point de convergence pour répondre à ses besoins. Alors, ce premier souhait. Deuxième souhait, c'est concernant l'aménagement du territoire. On a fait une proposition aux élus de former un comité de citoyens, élus citoyens, pour discuter des problèmes d'aménagement du territoire. On remarque que la couverture forestière a été pas mal abîmée ces dernières années par l'étalement urbain en Sorel. La protection des milieux humides, c'est un défi ici comme partout ailleurs. Alors, il y a du territoire au centre-ville qui mériterait d'être densifié au niveau de l'habitation. On comprend que les villes veulent augmenter la population puis l'habitation, mais je pense que c'est là qu'il faut le développer, au centre-ville, faire un centre-ville habité. On a des enjeux aussi au niveau, on est au confluent des principales rivières du Québec, et ça, je pense que ça nous place dans une situation où on ramasse les problèmes que ces rivières-là ont. On pense à la pollution dans la Yamaska, dans la rivière Richelieu. On pense au rejet de la ville de Montréal qui nous arrive par le fleuve. Pour tout ça, on a besoin de développer une solidarité puis une prise de conscience collective pour réclamer que les gouvernements agissent. Et dernier élément sur lequel moi j'aurais des souhaits à faire, c'est que on puisse investir à Sorel-Tracy en la revitalisation urbaine. C'est en 2003 que le plan de revitalisation a été élaboré. Et il a été tabletté. Ça fait le dernier projet d'habitation au centre-ville, c'est les habitations Saint-Maxime il y a 10 ans, projet collectif, j'entends. Alors, je pense qu'il faut renforcer prioritairement la fonction habiter au centre-ville. Il faut que les gens aient l'occasion de venir s'installer là. Et il n'y aura pas de revitalisation commerciale si on n'a pas des gens qui habitent et qui vont fréquenter ces commerces-là. Et donc, offrir aussi des services de proximité aux gens qui habitent dans le Vieux-Sorel, ça m'apparaîtrait une grande priorité pour la ville de Sorel-Tracy.
René Lachapelle, pertinent, intéressant comme toujours. Vos étudiants sont chanceux de vous avoir. Merci, bonne année à vous.
Bonne année à vous aussi.
Bonne année, René. Après la pause, Serge Bergeron, Denis Marion, Jocelyne Bibeau et Denis Gagné.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut. Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucie Dale Parisot.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
À la Tribune aujourd'hui 2022, entre espoir, crainte et incertitude, Serge Bergeron a présidé la Chambre de commerce et œuvré dans la grande industrie. Bon midi, Serge.
Bon midi, Sylvain.
Alors, en 3 ou 4 minutes, Serge, avec quel degré d'optimisme entamez-vous 2022?
Bon, 2022, le mot d'ordre, c'était, quand on a commencé l'année, c'était se doser. Il fallait avoir notre troisième dose. Mais je pense que le prochain mot d'ordre, ça va être oser. Oser se prendre en main après une sortie de pandémie qu'on n'a jamais eu à faire face. Ça représente des gros défis pour nos relations interpersonnelles qu'il va falloir revisiter et réparer parce que on a été divisé par les anti-masques, les anti-vaccins, les gens qui ne respectaient pas les consignes, puis ceux qui respectaient. Fait que maintenant, il faut oser sortir de cette pandémie. Puis la pandémie, elle nous a fait réaliser aussi qu'il n'y a pas de salut sans mobilisation générale. On écoute la radio et la télé à chaque midi pour avoir le score. Donc, il faut des actions concertées avec des indicateurs comme on voit tous les midis pour mesurer si on avance, si on recule, si on fait du surplace. Il faut avoir des résultats qui vont nous motiver à prendre action. Dans la région, moi, je vois 3 gros secteurs qu'il va falloir adresser. Le premier, c'est le secteur scolaire. Il va falloir avoir une commission scolaire qui soit performante. Un enseignement secondaire là, avec un très haut taux de diplomation au-dessus de la moyenne pour pouvoir être une région qui va attirer des gens. Il va falloir aussi adresser notre service de santé, on le voit au niveau provincial, mais ici régional, je pense qu'il faut l'adresser. C'était déjà un secteur là qui était problématique avant la pandémie. La pandémie n'a pas aidé bien. Il va falloir être proactif au changement. Il va falloir aussi améliorer nos services qu'on dispense à la population, services médicaux qui sont partis à l'extérieur. On va pouvoir faire un effort pour les rapatrier, puis améliorer notre urgence. Ceux qui l'ont utilisé s'aperçoivent que c'est aussi déficient que dans la province. Et puis, il y a un autre secteur qu'il faut, René en a parlé tantôt, là, c'est le secteur récréo-touristique. Là. C'est un secteur qui peut aider la population à améliorer sa perception au niveau provincial. Puis, on peut aussi injecter de l'innovation et se servir de ce secteur-là comme levier pour faire une relance économique dans la région. Avec ces 3 secteurs-là qu'on va adresser, je pense que ça va attirer la main-d'œuvre qui fait défaut pour la relève dans la région. Puis en ayant ces 3 secteurs-là performants, je pense qu'on va attirer une main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre qui va résider dans la région, qui ne considérera pas sa rôle comme étant un dortoir, pas un dortoir, l'inverse d'un dortoir, qu'on vient travailler, mais on va dormir ailleurs. Donc, il faut que ces secteurs-là puissent faire en sorte que les gens vont venir ici, les meilleurs, puis vont rester. Le prérequis, c'est pour faire ça, pour adresser ce haut niveau de qualité, c'est d'avoir des gestionnaires performants qui sont capables de redresser la situation, puis d'avoir des indicateurs de performance qu'on puisse, nous, la population, les voir si on s'améliore ou pas. Puis là-dessus, il faudrait créer une espèce de comité de recherche d'excellence qui n'est pas redevable envers les municipalités, mais qui est redevable envers la population, qui est capable d'émettre de façon publique des opinions sans être attaché à des politiques ou à des façons d'être réélu. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai utilisé mon 3 minutes et demie, un petit peu plus. Je donne la parole aux autres pour essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Puis comme je l'ai dit, on a commencé à se doser, mais là, il faut oser.
Merci. Merci, Serge Bergeron. Vous nous avez donné de beaux devoirs à faire. Merci beaucoup. Denis Marion, maintenant, Denis Marion, on retrouve le Massuvillois, maire de son village durant plusieurs années, politologue qui a dirigé des cabinets politiques à Québec et Ottawa. Vice-président, êtes-vous toujours de l'Institut national de santé publique du Québec?
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, Denis, on a été nombreux et nombreuses à se souhaiter bonne année au cours des derniers jours. Est-ce que ce sera suffisant pour en produire une bonne année?
Les conditions vont changer de jour après jour, j'ai l'impression. Là, on va vivre différentes étapes dans les prochains mois. Je pense qu'il faut garder espoir, puis qu'il faut rester optimiste, puis il faut faire confiance, je pense, autant à la population qu'à l'ensemble des partenaires là, qui font que la société a un peu d'allure. Mais je vous dirais que mon principal espoir, c'est que la pandémie ne crée pas, ne génère pas un désengagement de la population. On sent une grande fatigue actuellement. Et puis Serge Bergeron vient juste de le dire, il va falloir construire et reconstruire après la pandémie. Puis les efforts de chacun vont être nécessaires. Autant chez les politiques, dans le milieu communautaire, chez les entreprises, chez les travailleurs, il va falloir qu'on mette tous l'épaule à la roue pour se reconstruire une société qui a du bon sens. Après, chacun dans nos domaines. Et là, ben, ce sera à chacun de déterminer les priorités, mais de les proposer aussi les uns aux autres. Ce sera d'autant plus vrai que, parallèlement, il y a l'énorme défi des changements climatiques, qui est absolument actuellement éclipsé par la pandémie, là. Mais ça va avoir des impacts, là aussi des impacts majeurs sur chacune et chacun d'entre nous. Et il faudra qu'on regarde ça de façon intelligente, puis qu'on soit proactif aussi dans la région. Il faut qu'on soit capable de tirer des leçons de la pandémie. Il faut éviter de chercher juste des coupables. La fatigue qu'on a tous nous amène à essayer de voir c'est de la faute à qui ce qu'on vit. Et c'est pas la bonne façon. Puis le Québec a fait preuve de plus de maturité ça à travers le temps. J'espère que ça se confirmera là aussi. Entre autres, pendant la période électorale de l'été, qui va nous amener à réélire un gouvernement à Québec, est-ce qu'on aura l'occasion à ce moment-là d'avoir un vrai débat public sur... Au moment où on sera peut-être en train de sortir doucement de la pandémie, qu'est-ce que ça veut dire devant nous? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, les différents partis politiques, pour qu'on soit capable de faire un choix le plus éclairé possible? Il y a un élément que j'aimerais ajouter pour moi. C'est une préoccupation que j'ai par rapport aux jeunes. Quand on a 8 ans, 12 ans, 18 ans, 2 ans de pandémie, là, c'est pas mal long. Comment on va les accompagner? J'ai tout à fait confiance dans leur capacité à rebondir. Là, ça, la question ne se pose pas de ce côté-là, mais comment on va faire pour s'assurer que ces 2 années-là ne soient pas une blessure profonde dans leur vie et qu'au contraire, ce soit une occasion de comprendre que des fois les choses sont plus difficiles qu'on pense et qu'il y a des efforts à faire pour se sortir de là. Mais je pense comme société qu'on aura intérêt, puis je dis société, mais aussi dans la région, comment on va accompagner nos jeunes pour les amener à traverser tout ça, d'autant plus qu'on sait qu'ils sont beaucoup victimes d'éco-anxiété, c'est-à-dire justement la question des changements climatiques les préoccupe énormément, leur fait peur aussi beaucoup. Alors, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Puis, Sylvain, est-ce que vous me permettez une petite note personnelle?
Bien sûr!
J'espère que le Québec va reconnaître l'extraordinaire contribution du docteur Horacio Arruda. C'est quelqu'un qui siège avec moi au conseil d'administration de l'INSPQ, que je connais personnellement et dont pour lequel j'ai le plus grand des respects. Il a fait un travail absolument remarquable dans des conditions terriblement exigeantes. Et j'espère, puis je sens qu'aujourd'hui, depuis le matin, il y a une espèce de grand merci là qui émerge de tout le monde. Et j'espère que ça lui apportera le réconfort qui lui permettra de voir combien on est dans le fond reconnaissant pour tout le travail qu'il a fait depuis les deux dernières années.
Merci, Denis Marion. On vous souhaite une bonne année.
Bonne année à tout le monde.
Jocelyne Bibeau. Jocelyne Bibeau est danseuse, chorégraphe, femme d'affaires. Elle a opéré pendant de nombreuses années sa propre école de danse et œuvré dans le public, dans le secteur de l'enseignement. Bon midi, Jocelyne.
Merci, toi aussi, Sylvain.
Alors, en 3-4 minutes, Jocelyne Bibeau, dans quelle disposition vous accueillez-vous 2022?
Bien, moi, j'y vais avec un texte qui s'appelle « Entendre les espoirs possibles ». Alors, j'y vais. L'espoir est un mot de l'action, du changement et du courage. L'espoir est la matière du vivre, du grandir, de cette projection devant le présent, le futur. L'espoir nous oblige à assumer la peur, trouver une issue toujours envisageable, une quête de la renaissance. Notre vie tout entière se doit, dans les moments troubles, générer une raison d'avancer. Comment tolérer le non-contrôlable, l'inacceptable, la pandémie et son lot de souffrances, de mort, d'abandon, de stress? Comment survivre avec une conscience éclairée, saine? Comment respirer ce tumulte d'insécurité? Évitons la contagion émotionnelle, renforçons notre vie intérieure. On peut se fier sur notre expérience de vie, se poser la question, ai-je un peu de pouvoir, lequel? Il faut exercer le plus petit contrôle s'il le faut, mais agir. Notre équilibre en tant que personne, en tant qu'être social, doit s'acharner à se stabiliser. Il faut dompter le cheval fou. Il faut crier à la vie ce que l'on désire. Rester dans le maintenant, à l'écoute de soi, de ses besoins de relâchement, libérer ses tensions. Travailler encore sur soi et aussi partager avec les autres, la communauté, la société. L'espoir n'est pas un mot cliché, il est actif, réfléchi, vivant, pousse vers le meilleur, génère une attente confiante. Nos pensées créent la réalité. Faisons naître celles qui sont positives, qui nous guérissent. Faisons de notre mieux, simplement, avec bienveillance et compassion. La pandémie a le pouvoir de nous ébranler, mais elle ne réussira pas à nous éteindre. On va douter, pleurer, et chacun, l'un pour l'autre, on aura une épaule. Dans la force du nombre, l'humain collé l'un à l'autre, conscient de la vulnérabilité de chacun, nous resterons solidaires à l'écoute, dans l'entraide et la résilience. Nous sommes condamnés à devenir plus humains, se sachant fragiles, mais forts et déterminés. Nous sommes une famille, cette région, le Québec, le monde, nous portons le même fardeau. Restons en contact avec l'histoire qui se vit. Notre gouvernement apprend la mesure des événements, comment cerner l'ennemi. Lisons les médias qui ont des sources fiables. On le sait, ce temps passera, les vaccinés seront maîtres de leur vie. Il y aura la durée, la patience pour accepter ensemble le temps qu'il faudra. En attendant, tendons les bras, serrons nos petits, laissons la science nous sauver, regardons en pleine face le soleil. Écrivons ce que nous vivons, dessinons, chantons, communiquons, dansons sur la musique folle de nos passions. L'art comme une thérapie assumée. Que cette expérience locale mondiale soit un tremplin pour l'émergence d'une conscience aiguisée de notre appartenance à nous-mêmes et à la collectivité. Renouveau, changement, paix. Surtout, ne jamais éteindre le feu de l'espoir.
Wow! Merci, merci Jocelyne de cette riche contribution à l'émission de ce midi.
Merci beaucoup Sylvain, à toi.
Bonne année.
Bye.
On se tourne du côté de Denis Gagné. Denis Gagné, connu pour les fonctions qu'il a exercées de conseiller municipal à Sorel-Tracy, connu pour sa présidence du Festival de la Giblotte et professionnellement pour avoir dirigé une succursale de la Société des alcools chez nous. Denis Gagné, bon midi.
Bon midi, Sylvain.
Alors, à quel genre d'année avez-vous levé votre verre? Et ce verre, est-ce que vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide?
Je le vois à moitié plein, de par ma nature, qui est plutôt positive. Alors, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui, malheureusement, a passé sous le tapis dû, évidemment, à la pandémie. Ce sont les changements climatiques. Et je veux vous en parler de façon que je veux positive. Premièrement, par certaines actions qui se sont passées. Premièrement, je vais vous parler de la nomination de Stephen Guilbeault à l'environnement et de Jonathan Wilkinson aux ressources naturelles. On peut certainement parler de deux nominations, deux personnes qui ne sont pas très favorables aux énergies fossiles et qui vont probablement prendre action. Évidemment, ils vont prendre action à leur niveau, c'est-à-dire qu'on va entendre beaucoup parler de taxes de carbone, de suspension d'aides financières aux énergies fossiles. Mais la raison pour laquelle je veux vous parler de ces nominations-là, c'est pour le message qui a été lancé, à mon sens. Il n'y a pas tellement longtemps, il n'y avait même pas d'environnement ou de changement climatique au gouvernement, alors que présentement, on voit que ce sont des ministères qui ont une grande importance et que ce sont des personnes assez importantes au gouvernement qui en font partie. Alors, on peut penser que le message qu'on a voulu lancer par le gouvernement fédéral devra se défendre et se rendre aux différents niveaux du gouvernement, même se rendre au municipal, même si on sait qu'il n'y a pas de ministère au municipal, mais pour voir l'importance de des changements climatiques. On ne parle plus maintenant de savoir s'il y aura des changements climatiques, mais de savoir quand on aura ces effets-là et quelles en sont les intensités. Alors, il est très important, je pense, que de voir dans ces nominations-là le fait que ces personnes ne sont pas seulement des ministres d'IRBAN, mais vraiment des gens qui font partie maintenant des décisions et qui font partie des discussions à tous les niveaux lorsqu'il y a des réunions de ministres. Alors, c'est très important et c'est pour ça que je pense que c'est le message qu'il faut retenir. La deuxième chose que je veux vous parler de façon positive au sujet des changements climatiques, bien, ça fait déjà quelques années que tous les constructeurs automobiles du monde nous annoncent que très bientôt, ils ne vendront plus d'automobiles à essence, mais bien des véhicules branchables, des véhicules électriques. Et on parle pour certaines entreprises de 2025, c'est dans 3 ans, et pour la plupart 2030. Donc, c'est très, très bientôt, là, c'est demain matin. Alors, ce qui est bien important de comprendre dans ce changement de paradigme, c'est qu'il y aura maintenant, et très bientôt, lorsqu'on ira pour changer nos véhicules, bien, on aura plus de choix de véhicules électriques que de véhicules à essence. Ce qui veut dire qu'il y aura de moins en moins de bateaux et de trains qui sillonneront le monde pour transporter ce pétrole, les amener à des raffineries, qu'il y aura de moins en moins de raffineries et qu'il y aura de moins en moins de camions qui partiront des raffineries pour aller remplir nos stations-service. Alors, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ce qui serait très important de savoir, encore une fois, comme dans le premier sujet, c'est de savoir qu'est-ce que nos gouvernements de proximité prévoient. Parce que ce que je comprends, c'est qu'ils sont déjà en retard à ce sujet. On parle de, par exemple, à la MRC ou dans nos villes. Qu'est-ce qu'ils prévoient? Parce que c'est demain matin là, qu'il y aura plus de véhicules électriques que de véhicules à essence dans nos rues. Alors, est-ce qu'on va aider nos concitoyens à acquérir des bornes de recharge pour la maison ou est-ce qu'on va multiplier par des dizaines les bornes de recharge à travers la ville? Alors, ça serait important pour les citoyens de savoir que nos élus sont déjà à travailler sur les changements climatiques par des actions concrètes et pour faire suite aux décisions qui sont prises à plus haut niveau. Alors, pour qu'on puisse nous-mêmes prendre des décisions à ce moment-là, en voyant que les gens s'en préoccupent.
Merci, Denis Gagné. Il y a beaucoup d'élus municipaux et municipales qui nous écoutent. Alors, ils vont sûrement vous avoir entendu votre souhait.
J'espère bien. Bonne année à tous.
Bonne année, Denis Gagné. Après la pause, nous poursuivons avec 2022 entre, n'est-ce pas, espoir, crainte et incertitude.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Lucie Dale Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucie Dale Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucie Dale Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucie Dale Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucie Dale Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucie Dale Parizeau.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Corina Bastiani est depuis toute jeune sous les projecteurs, étudiante au secondaire. Elle attire l'attention de Nathalie Petrovski de la presse pour passionnément suivre le Festival des films du monde. Elle part son propre journal, propose aux Sorellois toute une série de rendez-vous culturels et artistiques, se lance en politique municipale et même fédérale et ne va jamais cesser d'être une citoyenne engagée. Bon midi, Corina Bastiani.
Bon midi, bonne année.
Que vous inspire Corina 2022?
Je considère que depuis bien avant la pandémie, il y avait une distanciation entre les élus et les citoyens. Et si un rapprochement se créait en cette nouvelle année? Nous cuisinons plus, dépoussiérons nos archives, renforçons notre humanité. Devenons-nous plus authentiques? C'est souhaitable. J'ai grand espoir au printemps qui vient. La vie qui va reprendre, autrement, certainement. Je rêve à quoi? À une communauté qui s'aime, S-E-M-E. Nos sensibilités humaines sont exacerbées. Et si de cet état d'urgence qui perdure naissait une nouvelle aventure? Et si, comme l'activiste Rob Hopkins, on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons? Et si nos incertitudes, nos craintes, nos peurs servaient de moteur et d'inspiration? Des traces de ce qu'on vit vont marquer le futur. Et si le désabusement québécois à l'égard de la politique fondait comme neige au soleil? J'ai espoir en une mutation commune. Ici, sans s'approprier le monopole politique, on construisait les années qui viennent. Ici, on se mettait en mode solution. Ici, on s'inventait un plan local de sortie de crise. Ici, nos passions étaient encore plus utiles chez nous. Ici, on se préparait à la violence du climat. Ici, notre quartier était empreint de douceur quotidienne. Ici, on souhaitait un nouveau genre de printemps. Je rêve à quoi? À toi qui sème avec moi. Et si dans un nouveau jardin public, on y retrouvait la participation des femmes, des travailleurs, des invisibles, des jeunes? Et si on assistait à une montée en compétences conjointes des citoyens? La naissance d'une place permanente dans la vie démocratique au-delà du temps des élections. Au sens du mot politique, les citoyens sont des acteurs principaux, pas des victimes. Et si les politiques publiques locales répondaient aux besoins, aux espérances? Et si le projet de transformation sociale reposait sur l'émancipation des individus, des communautés, des institutions? Et si l'espace public devenait espace commun? Je nous souhaite de les voir fleurir, ces espaces, et faire grandir la racine d'un vivre ensemble. Et si on se mettait en place des économies alternatives, centrées sur les besoins des gens? Je nous souhaite de renforcer notre capacité à répondre collectivement et politiquement aux enjeux contemporains. La municipalité, c'est l'outil démocratique capable de transformer la société et peut apporter la stabilité écologique de la planète. Pas simplement par le biais des urnes, bien au contraire. La vraie politique n'est pas de confrontation. La vraie politique, là, elle est festive. Je rêve à quoi? À elle qui s'aime avec lui. Et si nous habitions des villages et des villes sans peur? Les municipalités sont aux premières loges des perturbations de toutes sortes. À l'échelle internationale, la municipalité est vue comme le palier d'intervention par lequel transigent les solutions. Je nous souhaite une philosophie politique de fraternité. Chacun des citoyens représente une voix experte pour son quartier. Et si on assistait à une humanité plus émancipée? Je rêve de transformer les îlots de chaleur en îlots de bonheur. J'ose croire que nous sommes à bâtir à échelle humaine. J'ai espoir au printemps qui vient. J'ai hâte de semer les haricots, de découvrir l'ail, de déterrer les topinambours. Et si on bâtissait ensemble un four à pain sur un terrain public pour que l'on casse la croûte en créant des solutions à ce nouveau monde? Oyez, oyez, venez avec votre passion comme contribution. Je rêve à quoi? À nous qui semons ensemble. Et si nous devenions une ville en transition, une ville intelligente, là, pour vrai, une ville évolutive? Au moins, je sais qu'en 2022, il y aura des tulipes dans mon jardin. C'est ma voisine qui les a semées. On va préparer à faire pousser du gingembre en pot, puis... Et pourquoi pas écrire une lettre à mon maire?
Et si j'avais plus de temps, je prendrais beaucoup de minutes pour vous souhaiter une excellente année, Corina Bastiani. Merci de votre contribution.
Merci, bonne nuit, heureuse année à tous. Merci.
Hop, oh, excusez-moi. Voilà. Alors voilà, ça va vite. Claude Carpentier. Claude Carpentier a fait carrière dans la police. Au sommet de cette carrière, la direction du service de police de Tracy lui est confiée. Passionné de politique, il tente d'être élu à plus d'une reprise député libéral fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel. Des rendez-vous non concluants qui n'ont pas miné sa volonté d'intervenir dans les débats pour faire avancer une région dont il est à l'évidence amoureux fou. Claude Carpentier, bon midi.
Bon midi, Sylvain. Bon midi à toi et bonne année.
À votre tour de nous dire en 3 ou 4 minutes, plus 3 que 4, à quoi à la fois vous vous attendez en 2022 et à quoi vous... qu'est-ce que vous attendez de 2022?
Ben en fait, moi, j'aurais une proposition à faire. J'ai un projet qui me tient à cœur et qui, je pense que ça va dans la même lignée que tous les intervenants qui ont parlé là, avant moi. On sait que la pandémie a nous obligé à repenser nos façons de faire et on doit être très proactif et créatif pour assurer la survie de nos organismes communautaires qui ont dû mettre un frein à leurs activités de financement, ce qui a occasionné des lourdes pertes financières à nos 32 organismes régionaux. Je les nommerai pas tous parce que CJSO nous fait généreusement connaître tous ces organismes-là tout au long de l'année. Et pour, on sait que les bénévoles ont été inactifs à cause de la pandémie pendant les 2 dernières années. La meilleure façon de perdre un bénévole, c'est de le garder inactif trop longtemps. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que chacun des organismes qu'on a, les 32 que je ne veux pas nommer, que ça serait inutile, là, que tout le monde connaît, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de créer une forme de coalition entre les organismes sans nécessairement leur enlever leur autonomie, sans toucher à leur mission, à leurs valeurs, puis à ce qu'ils ont à faire pour rendre service à la population, puis à s'occuper des plus démunis. Moi, ce que j'ai pensé, c'est de former une coalition avec des membres de ces organismes-là, de créer comme un genre de caisse de dépôt où on aurait à récolter par différentes activités des sommes d'argent nécessaires et il y aurait un comité qui pourrait évaluer les besoins en fonction des urgences de ces organismes-là. On pourrait aussi constituer une banque de bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent dans chacun de ces organismes-là, mais je prends titre d'exemple, la Porte du Passant ou la Maison La Source, où il y a peu de bénévoles qui vont pouvoir organiser des activités de financement. Fait qu'on pourrait créer une coalition avec les différents organismes pour évaluer les besoins puis de répartir les sommes équitablement. Ça pourrait éviter des doublons. Ça pourrait éviter que les 32 organismes sollicitent tout le temps les mêmes donateurs, les mêmes gens, les mêmes commerces pour être capables de ramasser des fonds. Les commerçants pourraient donner à cette coalition-là et nous référer ceux qui sont dans le besoin qui vont les solliciter. On pourrait élargir le mandat en fournissant et des sommes financières, et en fournissant des bénévoles à ceux qui voudraient organiser des activités, parce que je veux garder l'autonomie de ces organismes-là. À titre d'exemple, la Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu va organiser une campagne de financement pour acheter un équipement médical. On aurait des bénévoles des 32 organismes communautaires qui pourraient se mettre ensemble pour venir en aide à la Fondation d'Hôtel-Dieu de Sorel ou à la Fondation du Cégep, ou peu importe l'organisme. Fait que ça serait de créer une banque financière et une banque de ressources humaines constituée de bénévoles qui pourraient venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, que ce soit dans le cas d'un sinistre, que ce soit des jeunes qui veulent jouer au hockey. Ça serait de mettre là, tous ces gens-là à contribution. Puis dans 32 organismes, si on calcule le nombre de bénévoles qu'on peut retrouver, je suis convaincu qu'on peut rallier plusieurs centaines de personnes pour organiser des activités.
Ben voilà une suggestion bien, bien concrète. Merci, Claude Carpentier. Excellente année à vous.
Ben, pareillement, Sylvain. Merci de l'invitation encore, puis bonne année à tout le monde.
Étudiant à la maîtrise en Sociologie. Vincent Pouliot lançait à la veille du débat électoral des candidats de la mairie de Sorel-Tracy une plateforme citoyenne pour enrichir les discussions. Cette volonté de nourrir le débat, elle n'est pas nouvelle chez lui. Il a tant souhaité avoir son mot à dire sur la politique soréloise, québécoise, qu'il a brigué les deux paliers de gouvernement. Vincent Pouliot, bon midi.
Bonjour.
Je vous fournis, Vincent, la tribune en 3 minutes, 4 minutes. De quelle année 2022 rêvez-vous? Est-ce que vous appréhendez qu'elle puisse être cauchemardesque?
Cauchemardesque, je ne sais pas. Ça va être difficile, certainement, mais il y a quand même des espoirs. Donc, pour 2022, je pense que mes espoirs et mes craintes peuvent se résumer en deux mots. Résister et fleurir. J'ai surtout envie qu'on critique constructivement, puis qu'on accepte des critiques, même si des fois elles ne sont pas formulées comme on voudrait. J'espère donc qu'on n'entendra plus nos élus se plaindre quand des citoyennes et des citoyens vont critiquer des idées ou des projets ou des façons de faire, parce que la démocratie, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une élection chaque 4 ans, c'est un processus de participation en continu, et la critique, ça en fait partie. Donc, pour 2022, j'ai espoir qu'on décide collectivement. Décider collectivement, ça veut dire décider en laissant aux femmes leur place, en laissant aux jeunes leur place, puis en laissant aussi leur place aux personnes qui sont nouvellement installées dans la région. Aujourd'hui, sur 10 personnes à partager nos espoirs, on a eu 3 femmes, puis je pense que je suis la seule personne de moins de 35 ans. Fait que je pense qu'il faudrait vraiment que les élus, puis que les journalistes, donc les gens qui ont le pouvoir de parler en public, qui ont une tribune, je pense qu'il faudrait qu'ils distribuent la parole à d'autres personnes qu'on entend peu ou pas du tout.
Ouais, en passant, on a invité 7 femmes, on en a eu 3. Je vous laisse poursuivre.
Parfait, merveilleux. Pour 2022, donc, décider ensemble. À l'échelle locale, j'espère qu'on va enfin consulter décemment la population pour des projets sur les quais ou dans le centre-ville, mais surtout pour que les décisions reflètent les besoins des gens qui vivent dans nos quartiers, puis pas juste pour attirer des touristes de passage. En 1998, donc il y a plus de 30 ans, il y avait déjà des gens qui exprimaient leur volonté que le centre-ville historique de Sorel soit fermé aux voitures. Je pense qu'on est dû, 30 ans plus tard, pour donner enfin plus d'espace aux piétons dans nos rues, aux jeunes qui veulent jouer, aux aînés, puis aux parents qui veulent se déplacer puis profiter de leur quartier. Au Québec, j'espère que la CAQ qui va agir pour le bien commun puis pas juste pour être réélu à la prochaine élection. Le fait qu'ils n'aient pas écouté la docteure Joanne Liu, qui est spécialiste en urgence pandémique, parce qu'ils avaient peur qu'elle propose des choses qu'ils ne voulaient pas faire, je pense que c'était particulièrement dangereux. Et je pense qu'il y a des gens qui ont probablement écopé de cette décision-là. Donc, j'espère en 2022 que cette attitude-là va changer, pas que pour la CAQ, mais partout dans la société. La CAQ avait aussi promis de changer le mode de scrutin pour que chaque vote compte. Ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas le faire parce qu'ils avaient peur d'avoir moins de sièges à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est antidémocratique de refuser que chaque vote compte pour garder le pouvoir. Donc, j'espère que nos choix électoraux en 2022 seront éclairés par ces décisions antidémocratiques. J'ai une pensée pour les nations autochtones. J'ai peur, par exemple, pour la nation Wet'suwet'en, dans l'Ouest, qui lutte contre un projet de pipeline sur son territoire. On envoie illégalement la GRC avec des armes pour forcer un projet privé qui va d'abord contre nos lois canadiennes, mais en plus contre l'autodétermination des peuples autochtones. Donc, j'ai peur qu'on laisse encore une fois une compagnie privée saccager les écosystèmes pour faire de l'argent. Comme beaucoup de personnes, évidemment, j'ai peur des conséquences des changements climatiques qu'on voit déjà arriver. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se batte les fesses pour transformer la société en 2022, pour réduire notre impact sur le climat, vivre plus démocratiquement, puis prendre soin de nos proches. Ça veut dire penser différemment, faire différemment, ça veut dire résister, se parler, se critiquer, s'écouter. Ça sera pas facile, mais sur notre positive, j'ai espoir quand même qu'on va se donner les moyens de fleurir ensemble.
Wow, merci beaucoup, Vincent Pouliot. Une excellente année à vous et on espère vous réentendre à la tribune.
Merci,
Vincent. De l'autre côté de la pause, Nathalie Bergeron, Yves Fortin et Albert Calfat.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André-Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut. Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca. La Tribune, une présentation de Meubles André-Beaulieu et de Lucie Dale Parisot.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
À bord de sa caravane du bonheur, Nathalie Bergeron a fait voyager son art aux quatre coins du Québec, mais c'est à son port d'attache, Sorel-Tracy, qu'elle lui aura fait connaître, j'en suis sûr, le plus grand bonheur, immortaliser le sourire des siens. Nathalie Bergeron, bon midi. Bon midi, Nathalie Bergeron. Allô, allô, allô? Nathalie Bergeron? Bon, voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, qui est en ligne?
Alors, c'est bien Nabé.
Ah, alors, Nathalie Bergeron, en 3-4 minutes, est-ce que vous avez le sentiment que 2022 va vous sourire?
Ah, écoutez, le 2022, on l'attendait. Comme j'ai dit, lorsque le 31 décembre, près de minuit, est arrivé, on a eu le privilège d'accueillir 2021, on a le privilège de l'avoir partir et d'accueillir 2022. Vous le savez, je suis d'une nature positive dans la vie et je pense que plus qu'on rencontre les gens sur nos routes, ça vient agrandir aussi notre bagage de vie. Vous le savez, j'étais supposée être à Sorel juste pour 2 mois. Désolée, ça fait bientôt 14 ans que je suis de retour et plus que je côtoie les gens de chez nous, plus que je tombe en amour avec mon chien-nous. Cette année 2022, on a des craintes, on a des incertitudes, on en a tous. Et savez-vous quoi? Même si ce n'était pas à cause de la pandémie, on en aurait, parce que l'humain est fait comme ça. Et toujours qu'on a un beau privilège d'avoir un document bleu, c'est marqué « Passeport Canada » dessus, on fait partie des quelques millions de gens sur la planète qui avons cette liberté-là. On ne doit pas l'oublier. Je suis d'une nature optimiste. Pourquoi? Parce que je côtoie des gens dans mon quotidien qui me donnent encore plus le goût de continuer, qui me donnent le goût de me dépasser, qui me donnent le goût d'écouter les consignes. Moi, qui est une éternelle adolescente, qui, on le sait, je les écoutais pas trop. Quand je côtoie nos beaux jeunes, nos adultes, nos gens qui travaillent au quotidien dans l'ombre comme sur la ligne de front, moi, comme citoyenne du monde, tout ce que j'écoute dire et que je veux faire, c'est « Hey, où c'est que je peux aider? » Et ça, c'est ce que j'aimerais entendre de plus en plus. C'est pas facile, la pandémie. On a vécu encore plus que cette exclusion sociale et j'ai toujours des pensées pour les gens que j'aime, que je côtoie et que j'ai rencontrés, que ce soit par les projets, que par mes implications, des gens qui sont en situation de vulnérabilité, que ce soit ici, dans notre ville-centre, que tu es un peu partout, dans tous nos coins de la MRC, mais un peu partout dans notre Québec, dans notre belle planète. Ce que moi, je peux faire comme citoyenne, puis ce que j'ai goût de dire aux gens, c'est, tu sais, quand on était ados, nos parents, ils disaient, « Hey, tes fréquentations sont bonnes ou sont pas bonnes. Qu'est-ce que tu as goût de faire de façon positive? Qu'est-ce que t'es fière de toi? » Parce que même si on est rendu des adultes, quelque part, ben on est aussi des personnes influentes pour nos petits puis nos grands. Puis nos petits, là, savez-vous quoi? C'est eux autres qui nous inspirent à continuer. Puis je vais y aller avec l'espoir, l'espérance, hein, qu'on entend si bien. Pourquoi l'espérance? Ben l'espérance, c'est aussi ce qui nous donne le goût de continuer de vivre, qui nous fait avancer, qui nous fait défoncer des portes, qui nous fait, pour des gens petits et grands qui se ramassent à l'hôpital, dans des traitements de chimio, puis qui fait « OK, je vais en faire un deuxième, un troisième, un quatrième traitement. » Pourquoi? Par l'espoir, pas de guérir, mais de passer encore plus de temps avec les liens. C'est ça, l'espoir. L'espoir, c'est des projets, maisons d'ancrage, la gang qui travaille si fort depuis autant d'années pour enfin qui ont ouvert hier pour accueillir nos jeunes ados quand ils ont des besoins particuliers. Parce que savez-vous quoi? Dans 53 000 de population de notre MRC, les besoins sont hurlants encore plus maintenant. Dans l'espoir aussi, c'est de voir nos jeunes. Je ne sais pas ce que vous faisiez, adolescente, mais moi, à 14-15 ans, je n'étais pas pognée 24-7 avec mes parents. Ah, savez-vous quoi? À bientôt 50. C'est aussi ça, notre réalité. Sont fiers, nos jeunes. Et comme Vincent l'a si bien dit, donnons-leur leur parole. Donnons-leur aussi les plateformes pour qu'ils puissent positivement faire reconnaître ce qu'ils font, leurs bons coups. Les gens qui font des affaires extraordinaires dans le mini-confort de leur maison, de l'entraide, de dire bonjour à nos voisins, ça commence par ça aussi, l'espoir. L'espoir pour moi, comme travailleur autonome, de continuer à faire longtemps mon travail, parce que je peux vous dire que depuis 2 ans, à regarder autour, le milieu des arts et de la culture, on ne l'a pas facile. Mais si on n'avait pas eu les arts et la culture en pleine pandémie, on n'y aurait pas pensé.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Nathalie Bergeron, d'être là.
Mais écoutez, et comme si bien on le dit depuis bientôt 11 ans, ensemble, tout est possible. Prenons soin de soi, prenons soin de nous, et surtout, on regarde devant.
Belle conclusion. Merci, Nat B.
Bye.
Bye. Yves Fortin a dirigé pendant plusieurs années le Centre local de développement. Il est l'un des principaux artisans de l'Agenda 21, un plan d'action en développement durable devant guider les élus et les dirigeants municipaux dans leur prise de décision. Dans la timide mise en œuvre, le décevra beaucoup. Yves Fortin, avez-vous espoir que 2022 ne vous déçoive pas en 3 minutes?
Je dois avouer que je suis pas tout à fait dans la catégorie des grands optimistes avec tout ce qui se passe, et je vais, moi, poursuivre sur un sujet qui a été abordé précédemment par Denis Marion et Denis Gagné, c'est-à-dire la crise des changements climatiques. Mais comme, de façon générale, on a une faculté d'oubli assez grande chez les êtres humains, je vais prendre 2 minutes pour juste vous rappeler quelques éléments, quelques événements majeurs d'un changement climatique au cours de la dernière année. Tout d'abord, tout le monde se rappelle probablement des records de chaleur sur l'ouest de l'Amérique du Nord. 50 degrés en Colombie-Britannique, c'était du jamais vu. Sécheresse historique au Canada, aux États-Unis et en Russie affectant la production de céréales, ce qui entraîne une pénurie de blé dur nécessaire à la fabrication des pâtes alimentaires. Sécheresse au Brésil, premier producteur de café au monde. Votre café, le prix a explosé récemment. Des méga-feux, Colombie-Britannique, Turquie, Scandinavie, Sibérie, 180 000 feux recensés par la NASA en août 2021. Inondations en Europe et en Chine, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. En décembre, des inondations dans le nord du Brésil qui entraînent le déplacement de 63 000 personnes. Dans la nuit du 10 décembre, dans le Midwest américain, 61 tornades de façon simultanée, du jamais vu, sans mort. Bien que le Canada soit un des pays les plus touchés par les changements climatiques, on ne le réalise pas tout à fait. Et le Québec en particulier, même si on en parle beaucoup, on s'en tire plutôt bien, pour le moment en tout cas. De simples canicules, des faibles précipitations en hiver et en été. On n'est pas encore obligé d'abattre le tiers des troupeaux comme dans les prairies. En résumé, on peut dire que les belles années sont derrière nous et que nous ne sommes pas préparés pour un monde différent. Le monde change et rapidement. Maintenant, je vais vous parler de mes espoirs.
Vous avez 1 minute.
Pardon?
Vous avez 1 minute.
Et mon Dieu. Et donc, mon plus grand espoir, c'est qu'il y a des citoyens qui ont fait une proposition aux municipalités à la MRC de créer un comité d'adaptation au changement climatique. Et pour le moment, on n'a eu à peu près pas aucune réponse. On a eu 2 municipalités qui nous ont donné des nouvelles. Et ce comité-là serait composé de citoyens et d'élus. Puis il devrait alimenter la réflexion des élus, proposer des actions réalistes, puis informer, sensibiliser la population. Fait que le changement climatique, c'est une réalité. Il est plus que temps qu'on s'organise localement pour y faire face, parce que ce n'est pas nécessairement nos gouvernements nationaux qui vont être en mesure de prendre des mesures adéquates, étant donné que ça fait 50 ans qu'elle joue à l'autruche. Merci beaucoup.
Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves Fortin. Albert Khalfa est notre dernier invité. Né au Caire en Égypte, il y obtient un diplôme en chirurgie dentaire. À son arrivée au Québec, il se spécialise en enseignement. Il enseigne la biologie à l'ESFL, l'anglais à Jean de Brébeuf. Il représente Richelieu à l'Assemblée nationale de 1985 à 1994. Je passe nombre d'implications syndicales notamment et même la propriété d'une parfumerie dans les années 70. Bon midi, Albert.
Alors, bon midi, Sylvain.
Alors, mettez-nous, Albert, au parfum de vos espoirs en 2022.
Mais dans un premier temps, j'aimerais rendre hommage à tout le personnel de la santé qui nous garde, qui nous protège, qui nous poursuit. Et là, j'aimerais leur dire un petit mot qui veut dire long, un gros merci. Et dans un deuxième temps, pour la région, c'est ça la question que vous me posez, j'espère qu'on va continuer notre esprit positif sans être testé positif. Pour la région, nous avons beaucoup d'éléments intéressants. Nous avons des hommes et des femmes intéressants pour se regrouper, pour former une sorte d'une relance durable, relance structurée pour un avenir collectif rose. Bien sûr, j'ai toujours plaidé pour le développement touristique. Nous avons les éléments, nous avons des infrastructures qui se développent tranquillement. À titre d'exemple, le festival du vin et bière, le festival de la lumière à Saint-Joseph, le GIF-Fest. Et d'autres idées peuvent se regrouper autour de ça pour faire en sorte que notre région, elle devient une destination intéressante pour l'ensemble du Québec, même hors du Québec aussi, on devient un pôle attrayant touristiquement et puis on embellit notre région, on embellit nos villes, que ce soit agréable recevoir du monde, puis le monde soit heureux de venir nous voir. Je suis sur une note positive. J'espère que malgré la pandémie qui nous frappe, ça va nous donner l'occasion de travailler ensemble et puis essayer de trouver un moyen de faire en sorte que notre région, elle devienne la meilleure puis retrouve ses lettres de noblesse d'autrefois.
Merci beaucoup, Albert Khalfa, en particulier de votre concision parlementaire. Merci, Albert. Excellente année à vous.
Merci beaucoup.
Merci Albert Khalfa, merci à l'ensemble de mes invités. À la tribune la semaine prochaine, COVID-19, comment garder le moral? Bonne semaine!